Oh, bonjour Magali.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Et cette troisième nuit sous les bombes en Ukraine.
Un féroce combat à Kiev, nous y serons dans un instant. Ceux qui ne restent pas pour se battre se terrent dans les sous-sols, les métros. D'autres prennent le chemin de l'exil. Inquiétude en Russie des entrepreneurs français face aux sanctions occidentales. La guerre en Ukraine, vous en parlez avec vos invités ce matin.
Oui, question sur l'impact des sanctions économiques contre la Russie. On va en parler avec l'économiste et historien Philippe Chalmin et également Édouard Simon, directeur de recherche à l'IRIS, il est spécialiste des politiques industrielles et d'armement.
La plus grande ferme de France ouvre ses portes à Paris. Emmanuel Macron est présent mais ne restera pas longtemps. Le palmarès des Césars, illusion perdue de Xavier Giannoli, remporte la mise. 2 ans après, le duel France-Écosse de retour pour le tournoi Destination, c'est à cet après-midi.
France Inter.
Le jour se lève sur une capitale en feu, coup de feu, tir d'obus. Les combats font rage à Kiev. Volodymyr Zelensky appelle à ne pas déposer les armes et à défendre la capitale. Valentin Dunat, vous êtes sur place, bonjour.
Bonjour.
Courte nuit pour les habitants qui sont sommés de rester confinés.
En effet, toute la nuit et pour la troisième fois consécutive à Kiev, il y a eu des bombardements que nous avons pu entendre de l'hôtel où nous nous trouvons. Selon des images prises par des habitants de Kiev, des sources fiables dont nous avons pu authentifier le témoignage, un immeuble d'habitation d'une trentaine d'étages situé dans l'ouest à côté de l'aéroport Sikorsky de Kiev a été touché par un tir de missile. Par ailleurs, des combats au sol ont lieu ces dernières heures sur l'avenue de la Victoire, une grande avenue qui traverse la capitale horizontalement. L'armée de terre ukrainienne affirme avoir détruit une colonne de 5 véhicules militaires russes, dont un char, près de la station de métro Berestaïska, située sur cette même avenue dans le centre-ouest de la capitale. Tous les habitants de la ville ont été invités à rester dans leurs abris, dans le métro notamment, ou s'ils sont chez eux, à ne pas s'approcher des fenêtres pour éviter l'effet de blast. C'est le cas où nous sommes. Il y a une grande artère devant nous, de grands immeubles, très peu de véhicules, pas une lumière, une ville fantastique. Ce matin, avec pour rentrer à l'intérieur de cette ville, nous l'avons constaté, des points de passage un peu partout avec des hommes armés, des barricades faites de palettes de bois et des sacs de sable pour sécuriser ces lieux. Des hommes armés, parmi eux de nombreux civils, des pères de famille qui vivaient en paix il y a encore quelques jours et qui sont désormais volontaires pour tenter de sauver leur pays face à l'invasion russe.
Valentin Dunat avec Arthur Gerbeau. Ailleurs en Ukraine, on vient tout juste de l'apprendre, les troupes russes ont pris la ville de Mélitopol dans le sud du pays, information diffusée par l'armée russe. Se battre ou fuir, des centaines de milliers de personnes jetées ces derniers jours sur le chemin de l'exil. Thibault Lefebvre, vous avez fait une partie de la route à leur côté, reportage au sud de Kiev avec Jérémy Thuil.
Des routes barrées, des barricades en construction, en béton armé, surmontées de sacs de sable et des voies par moments impraticables. À mesure que les Russes avancent, la fuite est de plus en plus compliquée.
Oui, nous venons de Kharkiv et on essaie de s'enfuir.
Victoria est partie il y a 2 jours du nord-est de l'Ukraine, à l'arrière de sa voiture, sa petite fille de 6 ans.
On ne sait pas vraiment où on va, mais là ça semble bloqué, donc on est en train de réfléchir à la prochaine étape. Nous avons entendu beaucoup de bombardements, c'était effrayant de sortir de Kharkiv, mais nous sommes là et on espère que tout va bien se passer.
Victoria voyage en convoi avec des amis, c'est elle qui ouvre la route de la petite Lada jaune juste derrière, qui affiche plus de 200 000 km au compteur. Sergui est assis sur le siège passager.
Ma priorité, c'est ma famille, mais quand je serai certain qu'ils seront à l'abri, j'irai aider mon pays.
Autrement dit, se battre. Sergui a un peu plus de 50 ans. Comme tous les hommes de 18 à 60 ans, il est donc mobilisable. Depuis hier, il a l'interdiction de quitter le territoire ukrainien.
Les civils, simples volontaires ou vétérans du conflit dans le Donbass, tous sont appelés à se battre. Environ 10 000 armes légères ont été distribuées. La guerre vue de Russie maintenant. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Magali.
Vous êtes à Moscou. Chez vous, les médias sont complètement censurés.
Oui, pour une grande partie des Russes, hein, l'information, c'est la télévision. Et la télé est complètement verrouillée par le gouvernement. En Russie, il n'y a pas de télévision indépendante. Du coup, ici, sur les écrans, la guerre en Ukraine se limite essentiellement au Donbass, où on explique que les forces séparatistes appuyées par les Russes progressent. En revanche, aucune information concernant une offensive russe sur Kiev ou d'autres villes du pays. La télé qui, par ailleurs, épouse complètement les contours du discours du pouvoir sur le thème Tout cela est très triste, mais nous n'avions pas d'autre choix. Le contrôle des médias dépasse le cadre de la télévision, puisque Roskomnadzor, qui est le gendarme de la communication et de l'Internet, impose aux médias de ne reprendre que des sources officielles pour parler de la guerre. Malgré tout, les Russes, comme les Français, sont très présents aussi sur les réseaux sociaux. Mais hier, le régulateur russe a annoncé qu'il allait limiter l'accès à Facebook, mesure de rétorsion après que la plateforme a interdit aux médias gouvernementaux russes de pousser ces informations en achetant de la publicité.
Sylvain Tronchet à Moscou, merci beaucoup. Vladimir Poutine, paria des Occidentaux. Ils ont gelé les avoirs du président russe et de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le secteur financier est aussi sous le coup de sanctions. Ces mesures inquiètent en Russie. Les entrepreneurs français comme Alexandre Stefanesco s'attendent à des dommages collatéraux. Ce dirigeant d'une agence de recrutement vit dans la capitale russe depuis 15 ans. Pour lui, on est sur le même scénario qu'il y a 8 ans lors de l'annexion de la Crimée par la Russie. Et les sanctions qui s'en étaient suivies.
Ça s'est déjà passé en 2014, puisque lorsque l'Occident, l'Europe et les États-Unis ont pris des sanctions contre la Russie, premièrement, ces sanctions ont eu pour conséquence de faire baisser la monnaie et de porter atteinte au pouvoir d'achat des Russes, donc les appauvrir un petit peu, et ont par conséquent porté atteinte à la consommation. Quand les Russes consomment moins, achètent moins parce qu'ils ont moins d'argent, ils achètent moins, y compris de produits étrangers. Donc, des entreprises françaises de la grande distribution en Russie peuvent être directement impactées. Et puis, il y a aussi les contre-sanctions. En 2014, par exemple, les Russes avaient mis un embargo alimentaire, en fait, contre l'Europe, et la France avait été extrêmement pénalisée dans le secteur du fromage, dans le secteur du lait notamment, et de facto, entre l'embargo et la baisse du rouble, les Russes se sont remis à produire, donc c'est des parts de marché que les Français ne reprendront plus jamais. Et aujourd'hui, le nouveau paquet de sanctions, il risque d'avoir pour effet de faire baisser la monnaie et de porter atteinte de nouveau au pouvoir d'achat des Russes, et par conséquent, indirectement, ça va avoir pour conséquence d'affaiblir et de porter atteinte aux entreprises étrangères et françaises en Russie.
Alexandre Stefanesco au micro de Thomas Giroudeau.
Et en France, certains professionnels sont particulièrement attentifs à la situation en Ukraine.
Les agriculteurs, le salon de l'agriculture ouvre ses portes à Paris. Simon Le Baron, vous y êtes, bonjour.
Bonjour.
Le coup d'envoi est donné ce matin par le président Emmanuel Macron qui prévoit déjà une visite express.
Oui, c'est clair, ce n'est pas aujourd'hui qu'il battra son propre record. Il avait passé plus de 14 heures dans les allées du salon en 2019. Le président qui a été accueilli il y a quelques minutes par les représentants des syndicats agricoles et des filières et par le président du salon, Jean-Luc Poulain.
Courage, monsieur le président, soyez fort et puis un grand merci.
Merci beaucoup, président, pour votre accueil. La guerre revient en Europe et nous nous voyons aujourd'hui dans un contexte inédit, grave et historique. C'est ce qui fait, vous m'en excuserez, que je laisserai le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation pour ce salon des retrouvailles.
Oui, puisqu'Emmanuel Macron, vers 9h, va couper le ruban du salon. Et puis c'est bien Jean Castex qui ira à sa place goûter les fromages, les charcuteries et tâter le flanc des vaches. Le président, lui, reprendra ses coups de fil diplomatiques il y a encore quelques heures. Il a parlé avec son homologue ukrainien Zelensky, mais il a tenu à venir ici pour tenter de rassurer les agriculteurs sur les conséquences de la guerre, notamment sur le coût de l'énergie et des matières premières. Cette guerre qui durera, vient de dire Emmanuel Macron. Ses troupes avaient un temps envisagé ce salon comme un rendez-vous de campagne. Il sera bientôt candidat, mais les circonstances l'obligent aujourd'hui à se contenter du service minimum.
Simon Le Baron avec les moyens techniques de Martin Troidec.
Voilà un film France Inter, Illusion perdue, grand gagnant hier soir lors de la 47e cérémonie des Césars.
La fête du cinéma français présentée cette année par Antoine Decaune. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour à tous.
Comme chaque année, le palmarès a fait des heureux et puis des déçus.
Oui, et c'est bien sûr Xavier Giannoli qui remporte le jackpot. 7 Césars pour le très balsacien Illusion perdue, dont meilleur film. Jolie moisson de statuettes aussi pour Annette, l'opéra rock de Léo Scarrax, qui réalise pour l'occasion un doublé inédit. Prix de la mise en scène à Cannes et César du meilleur réalisateur. Valérie Lemercier est pour sa part sacrée meilleure actrice pour son interprétation d'Aline alias Céline Dion.
J'ai pas eu beaucoup de mérite parce que j'avais un grand modèle à qui je dis encore ce soir tout mon amour et mon admiration, Céline bien sûr. Et j'espère que j'aurai autant de chance avec mon prochain film sur l'histoire de Martine Aubry. Merci beaucoup.
Malgré plus de 2 millions de spectateurs et 7 nominations, le polar Bac Nord repart bredouille, tout comme la Palme d'Or Titane et les Olympiades de Jacques Audiard.
Et puis Alexis, les organisateurs des Césars ont semble-t-il retenu la leçon après les controverses de 2020-2021. Ces Césars 2022 ont été bien plus sages.
quitte à être parfois très ennuyeux, d'autant que la cérémonie s'est achevée à 00h40. On retiendra tout de même le discours émouvant de l'aide-soignante Aissatou Diallo Sania, meilleur second rôle pour La Fracture, et le coup de gueule d'Arthur Harari, César du scénario pour Onoda.
Ce qui manque peut-être le plus à ce milieu ici représenté ce soir, c'est peut-être le courage. Ce courage qui fait faire des choses un peu autres que du consommable ou du contenu. On va pas au supermarché pour avoir une émotion. Donc essayez de vous différencier des plateformes, faites des choix qu'elles ne font pas, faites exister ce qu'elles font disparaître.
Quant aux tentatives comiques, elles n'ont pas fait mouche hier soir, à part peut-être cette apparition surprise et musicale de José Garcia.
Alexis Demeyer.
Et sur France Inter, 8h11, c'est l'heure des sports.
Et c'est l'événement du week-end. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Du rugby et la troisième journée du tournoi Destination.
Effectivement, et le 15 de France est en Écosse. La France, seule équipe à pouvoir encore réaliser le Grand Chelem hein, cette année. Sauf que l'Écosse, c'est un peu la bête noire des Bleus dans ce tournoi depuis 2 ans maintenant. Une chose est sûre, le match clé, il va se jouer cet après-midi donc dans une ambiance exceptionnelle, celle du stade mythique de Murrayfield. Décrivez-nous Vincent Pellegrini.
Quand l'hymne écossais Flower of Scotland enveloppe le stade de Murrayfield, les frissons sont garantis. Le jeune arrière et buteur des Bleus, Melvin Jaminet, va le découvrir cet après-midi.
Murrayfield, c'est une atmosphère un peu spéciale. Je l'ai vu qu'à la télé, et déjà à la télé, j'avais quelques frissons, donc forcément, j'ai hâte de découvrir ça en réel.
Il y a 2 ans, alors que le 15 de France était déjà en lice pour le Grand Chelem, il avait craqué sous la furia écossaise. Une défaite de 11 points, la plus lourde depuis la prise de fonction de Fabien Galthié. Le sélectionneur des Bleus et ancien national sait bien à quel point l'ambiance et le contexte émotionnel sont impressionnants dans le plus vieux stade du tournoi.
Le stade de Murrayfield, Édimbourg, sublime. C'est toujours extraordinaire. Les Écossais, on peut s'attarder un peu sur leur histoire et sur la valeur affective que porte l'ensemble des Écossais à leur équipe de rugby. On a vécu l'expérience déjà une fois. Nous avons beaucoup appris.
Mettre fin à 8 années d'insuccès dans le tournoi, dans le chaudron de Murrayfield, fournirait la preuve que ce 15 de France peut voir l'avenir en grand. Édimbourg, Vincent Pellegrini, France Inter.
Coup d'envoi de cette Écosse-France à 15h15 et il y aura 8000 spectateurs français dans les tribunes. Il va falloir qu'ils s'investissent. Un grand rendez-vous aussi côté rugby pour les Bleus du rugby fauteuil cet après-midi. Et oui, l'équipe de France est en finale du championnat d'Europe à Paris pour la première fois de son histoire. Adversaire à battre, l'Angleterre, l'équipe championne paralympique en titre.
Le PSG doit une revanche à ses supporters.
Ça, c'est la Ligue 1 de football et le PSG qui doit une revanche effectivement après sa défaite contre Nantes. Ce soir, le leader du championnat accueille Saint-Étienne au Parc des Princes. Des Verts, 16e du classement, auteur d'une première partie de saison catastrophique en position de lanterne rouge, mais qui remonte la pente. Plus de défaites depuis un mois maintenant. Ils n'ont rien à perdre au Parc des Princes et ce regain de forme, il coïncide avec l'arrivée du nouvel entraîneur. Pascal Duprat reconnaît l'ancien capitaine de Saint-Étienne et coordinateur sportif du club, Loïc Perrin.
C'est pour ça que les joueurs se sentent bien aussi. C'est parce que Pascal Duprat est arrivé, a réussi à recréer une autre atmosphère, à redonner confiance, voilà, à créer ce changement qui est important quand on change d'entraîneur. Cet aspect psychologique un peu pour repartir de l'avant. On s'est au moins replacé dans ce championnat parce qu'il y a quelques matchs de cela, avant de jouer Angers, on avait quand même 7 points de retard. Donc on était très loin. Aujourd'hui on est dans la course, il n'y a rien qui est fait. Mais moi, j'ai la certitude qu'on est sur la bonne voie.
Paris Saint-Germain, Saint-Étienne pour la 26e journée de Ligue 1, c'est à 21h. Et dans le championnat féminin, 15e journée, 3 rencontres cet après-midi, dont celle du Paris FC qui est 3e du classement. Le Paris FC qui se déplace sur la pelouse de Guingamp.
Laetitia Bernard, merci beaucoup.
Dans le journal de Magali Homo, le temps de ce samedi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Avec du beau temps en général, Jean-Michel Golinski.
Du soleil en vue ce week-end sur la plupart des régions. Les hautes pressions tiennent les nuages à l'écart avec aujourd'hui un temps rapidement tout bleu après la dispersion des quelques brouillards et des nuages matinaux sans conséquence qui survolent ce matin notamment les régions de l'Est ainsi que la Corse et la Provence. Le vent d'autant, de même que les rafales sur la Corse et le Morbihan, vont atteindre 70 km à l'heure. Ce matin, les gelées sont fréquentes dans l'intérieur vers 0, moins 3, généralement jusqu'à moins 5 sur les régions centrales. Cet après-midi, hausse des valeurs par rapport à hier sur les villes les plus méridionales avec 14 à 15 degrés au sud de la Garonne, 16 des Bouches-du-Rhône au Var, contre 8 à 9 dans le quart nord-est et 10 à 12 de la Manche en descendant vers le Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.
Jean-Michel Gonaski, Météo France.